Bras zéro, brassage radio, bienvenue ce soir pour une émission très 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 spéciale. On reçoit Julien et Blandine, des anciens de Bras zéro, qui continuent à faire de la radio sans nous, mais qui viennent quand même nous partager ce qu'ils font. Donc voilà, on est super contents, contentes. D'ailleurs, on est à Canal Sud, on va écouter ce soir deux épisodes, merci, d'un documentaire sonore qui s'appelle Un vrai travail. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez. Je vais laisser la parole à Julien et Blandine pour nous présenter un peu ce travail, un vrai travail.
Ah, t'as pas de questions plus précises.
Non mais on a hyper bien préparé.
Ouais, on est au top.
Du coup...
C'est un documentaire.
Ouais.
En deux épisodes.
Qui s'est basé sur un accouchement en particulier, le mien.
Ouais.
Et donc, dans ce documentaire, il y a notamment des sons qui ont été enregistrés au moment de cet accouchement.
Mmh.
Voilà.
Il y a un récit qui a été enregistré 3 jours après l'accouchement.
Il y a des voix off.
Des lectures.
Au tout début, ouais. Des lectures, des voix off au début et à la fin. Et puis une musique aussi. Il y a une création musicale sur tout le long des deux épisodes.
Vous reconnaîtrez d'ailleurs quelques voix de Bras zéro peut-être dans les lectures.
Ah ouais. Et on voulait juste faire un petit avertissement, sachant qu'il y a des sons qui ont été pris effectivement en direct. Ça peut parfois soit gêner, soit heurter un petit peu. Donc n'hésitez pas à mettre pause. De toute façon, l'émission, elle sera... En podcast sur le site de Canal. Donc s'il y a besoin de faire une pause, faire un tour et reprendre plus tard, ce sera toujours possible.
Et alors, il y a 2 épisodes de 3 quarts d'heure, mais je crois que là, ce soir, on n'écoute qu'un seul épisode à la radio.
Oui, et lundi prochain, on diffusera le second.
Ok.
Et on a aussi une adresse mail, parce que ça peut éventuellement faire réagir, avoir envie d'apporter d'autres commentaires, des envies de partager quelque chose avec nous, ou alors des envies de diffuser le documentaire. Donc n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse
collectif-t405@protonmail.com.
Peut-être on le mettra sur le site de Canal aussi. Ouais. Comme ça,
c'est quel tiré ?
Le tiré du 6.
Très bien.
Voilà.
Et puis après, tout est dit dans l'intro et dans le docu, donc lançons-nous.
Merci en tout cas d'être là.
De rien, j'adore votre générique.
Merci. Bonne écoute.
Let's go et merci beaucoup. Et donc, comme l'a dit Marie juste avant, vous pouvez nous rejoindre à Canal Sud au 40 rue Alfred Duméril parce qu'on en discutera ensuite. C'est ici que ça va se passer. Pour l'instant, on vous laisse dans vos cocons avec un vrai travail. Le premier épisode... Qui s'appelle Banane et Vocalise. Mais tout est dit dans l'introduction.
Sprint régulier, quoi.
Le mardi 7, l'après-midi, on était passé voir les sages-femmes qui, notamment Cécile, m'avait fait de l'acupuncture pour déclencher l'accouchement. Et le terme était le 9. Du coup, là, on était le 7. Donc, c'était tout à fait probable que je puisse accoucher à ce moment-là. Du coup, elle m'avait fait des trucs d'acupuncture et elle avait dit passez la soirée tranquille, vous allez au resto en amoureux et puis après t'accouches. À partir du moment où j'ai vu que je perdais du sang et que je faisais des allers-retours de plus en plus fréquents aux toilettes, au bout d'un moment j'ai dit non mais ça va pas le faire en fait de rester jusqu'au dessert. Et du coup on est rentré à pied.
Un vrai travail, un documentaire sonore en 2 épisodes.
En voyant une scène d'accouchement dans un film qu'on regardait ensemble alors que j'étais à 8 mois de grossesse, un garçon de 10 ans m'a demandé « Toi aussi tu vas crier ?» La grossesse et l'accouchement sont tellement sortis de nos vies quotidiennes, ici et aujourd'hui, qu'à 10 ans, on a bien peu d'outils pour se représenter ce qu'est un accouchement. Dans les livres de SVT, les personnes qui accouchent sont systématiquement représentées allongées, entourées d'appareils et de blouses blanches. Aujourd'hui, 98% des personnes qui accouchent en France le font dans des hôpitaux ou des cliniques, hors des regards et des oreilles de leurs proches. Dans des milieux où on revendique de se réapproprier nos corps, nos villes, nos espaces de réflexion, nos manières de lutter, notre droit à être femme sans être mère, etc., dans ces espaces-là, il faut pourtant avoir l'oreille bien affûtée pour trouver l'endroit où on va pouvoir discuter grossesse et accouchement. Moi, j'ai eu la chance de trouver cet espace-là au sein d'un collectif où nous avons élaboré nos propres grilles de lecture sur ces questions-là. On y posait des bases féministes et intersectionnelles, la volonté de reprendre le pouvoir sur nos corps, la possibilité de désirer ou non un enfant. Ça nous a permis de différencier le désir de fabriquer un enfant de celui d'en éduquer un. De parler de mort, de deuil, d'essayer de sortir la grossesse et l'accouchement des injonctions sociales et médicales, etc. Après avoir vécu une fausse couche, je suis de nouveau devenue enceinte. Pas vraiment tombée, ça serait mentir. Bref, grâce à ce bagage intellectuel, à une bonne couverture sociale, à un réseau d'amis qui pouvaient nous refiler de bonnes adresses, à notre possibilité de payer un surcoût, au privilège dans notre société d'être née dans un corps correspondant à mon genre, d'être blanche, en couple hétéro, etc. Avec tout ça sous le coude, on a tout de suite fait le choix d'être accompagnée dans cette grossesse et cet accouchement par des sages-femmes qui nous suivraient du début de la grossesse jusqu'à la naissance, et un peu après. On a eu la chance que ça soit possible parce qu'elles étaient dispo et encore en exercice, alors que la tendance sociétale et médicale pousse les sages-femmes à ne pas pratiquer les accouchements à domicile. On a aussi pu le faire parce que ma grossesse ne présentait pas de risque, parce qu'on m'avait appris à avoir suffisamment confiance en moi, et parce qu'on ne subissait pas de pression sociale ou familiale qui nous obligeait à faire autrement. Pendant ma grossesse, j'ai été friande de récits d'accouchement de copines, et je me suis dit que c'était précieux d'avoir accès à ce genre de récits. Alors à mon tour, j'avais envie d'en faire profiter les personnes qui auraient envie de se plonger dans cet intime. Cette histoire n'a pas vocation à être exemplaire, c'est juste un témoignage d'une histoire personnelle. De toute façon, je crois qu'un accouchement, ça se passe rarement comme on se l'était imaginé. Moi par exemple, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, et j'étais vachement plus douée en sprint qu'en course de fond. Du coup, j'espérais secrètement que ça me promettait un accouchement en quelques heures, et ben j'en ai eu pour 40. Bref, j'ai l'impression que plus le panel des accouchements vus et entendus sera large, plus les projections de ce qu'est un accouchement seront diverses dans notre imaginaire, et mieux on sera familiarisé avec cet événement. Puisqu'on est tous et toutes sortis d'un ventre, on vous propose ici de nous replonger dans ce moment-là, à travers un récit, enregistré 3 jours après l'accouchement, des sons, qui ont été pris en direct live au moment de l'accouchement, et des lectures pour prendre un peu de recul sur tout ça. Dans ces lectures, on parle pas mal de femmes qui accouchent. C'est une réalité sociétale, la grande majorité des personnes qui accouchent sont des femmes. Mais ça ne doit pas pour autant faire oublier que toute personne qui a un utérus, quel que soit le genre dans lequel elle se reconnaît, est susceptible d'accoucher un jour. Autre petite précision, on habitait à ce moment-là en caravane, d'où les claquements de portes que vous allez entendre. Vous entendrez aussi dans ce documentaire des prénoms. Donc il y a Jeanne et Cécile. C'est les deux sages-femmes qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Il y a Frijol, c'était le nom de fœtus de l'enfant à naître. Et il y a Thomas, qui était notre cohabitant.
premier épisode, Banane et vocalise.
Oh. Oh. D'aigreur.
Ouais. Tu veux manger un truc?
Non, juste ça me donne pas envie de manger.
Un tout petit truc, un truc assez épais, genre des amandes.
Une banane? C'est une banane?
Ouais, un petit truc.
Ça me donne pas du tout envie en fait.
Ok, bon. Boire. Et puis j'ai des frissons.
Extrait du livre « L'accouchement est politique » de Béatrice Cascalès et Laetitia Négrier.
Si la plupart des aspects de la vie privée des femmes ont pu être décomposés et analysés par les études féministes, la reconnaissance du caractère politique du privé semble ne pas concerner l'accouchement. Et le vécu même de cet événement n'a pas encore été exploré. Ainsi, la pathologisation du corps féminin totalement essentialisé continue d'opérer impunément. Celles et ceux qui défendent l'hypermédicalisation réitèrent cet essentialisme. L'accouchement est naturellement dangereux. Pourtant, ce sont bel et bien les pratiques sociales qui pathologisent l'accouchement. Celles et ceux qui défendent l'accouchement physiologique l'essentialisent aussi, mais parce que l'accouchement est naturel. Cette idée de nature suffit en elle-même à engendrer une crainte chez les féministes institutionnelles qui s'interdisent un positionnement politique à propos d'une chose aussi naturelle. Il semble donc que la naissance n'est politique que si elle n'a pas lieu. La grossesse et l'accouchement sont des événements de la vie privée qui ont lieu majoritairement dans des lieux publics et sont de fait sortis de l'intimité. Ces événements sont hautement institutionnalisés et font l'objet d'un contrôle social et médical omniprésent et omnipotent. Le corps même des femmes mères est devenu un lieu public, comme l'a énoncé Sylvia Federici.
Leur utérus, à ce moment-là, devenait un territoire public, contrôlé par les hommes et l'État.
De fait, pour ce qui est de l'accouchement, ce qui est infligé au corps des femmes mères à cet instant de leur vie est majoritairement passé sous silence. Très peu d'études francophones de genre se sont penchées sur les pratiques liées à l'accouchement.
Du coup, on est rentré à la maison.
Oui.
Et là, tu as commencé à avoir des contractions un peu plus fortes, où tu t'es dit, là, c'est...
C'est des vraies contractions, quoi.
C'est des contractions de travail, quoi. Mmh. Parce que tu avais mal, en fait, notamment.
Ouais. Là, j'avais des contractions toutes les 5 minutes, qui me faisaient bien mal, comme... comme des bonnes règles douloureuses, peut-être un peu plus, même plus. Et du coup, je me mettais sur le ballon, beaucoup. Mmh. Sur le ballon, penché en avant sur un dossier de chaise. C'est comme ça que je passais les contractions, en bougeant le bassin sur le ballon et en faisant des sons à chaque contraction. Ça faisait que, en fait, ça dépendait complètement des contractions. Il y a des contractions où j'arrivais pas à me... Même en faisant des sons, à me détacher de cette sensation de douleur. Et il y a des contractions où, en fait, j'imaginais... Je voyais la douleur comme un truc qui montait, comme une courbe, quoi. Un truc qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et puis qui redescend comme ça. Et du coup, j'essayais de caler mon son là-dessus, d'accrocher le son sur cette courbe de douleur, quoi. Et du coup, je pense que ça devait m'occuper l'esprit ou quoi. Et du coup, ça permettait de... Là, pour le coup... Dans ces moments-là, de beaucoup moins ressentir la douleur, mais un truc de malade, quoi. Et aussi, d'aller chercher dans la direction de la douleur, plutôt que de se mettre en opposition à la douleur. C'est un truc qui était... Là, pour le coup, c'était vraiment un truc auquel je m'étais préparée, en me disant, c'est ça qu'il faut faire, et c'est ça qui permettra que ça s'ouvre. Et je l'ai vraiment ressenti. Je l'avais lu, je l'avais intellectualisé, quoi. Et sur le moment, j'ai vraiment ressenti ce truc-là du son. Il me permettait de... d'aller vers ce truc de douleur, quoi. De se dire, ok. Je sais pas comment, c'est dur à expliquer. Ah, là, on va avoir un son de luz. Et moi, du coup, cette nuit-là, là, j'ai eu des contractions de plus en plus fréquentes, machin. Et de plus en plus intenses, surtout. Et y a un moment, je me souviens, j'étais sur le ballon. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y ait des femmes qui passent une dizaine d'heures comme ça, quoi. Moi, c'est pas possible, je vais pas tenir avec cette douleur-là. Plus de quelques heures, quoi. Et j'avais vraiment la croyance que ça allait arriver vite, en fait. Moi, je me disais, au petit matin, Luz, elle est née, quoi. Enfin, le bébé, Frijol, à l'époque. Et du coup, Jeanne est arrivée après 2 heures de contraction comme ça.
Ouais.
La sage-femme, on avait appelé... Il était 2 heures du mat. 1 heure du mat. Ah... Oh. Oh. Oh.
Tu veux que je te fasse la lecture ? Tu veux que je te fasse la lecture ? Nació para encontrarlo. Howard Carter nació en la mañana de hoy de 1874. Y medio siglo después supo para qué había llegado al mundo. Esa revelación ocurrió cuando encontró la tumba de Tutankamón. Carter la descubrió de puro porfiado, al cabo de años de mucho trajinar, peleando contra el desaliento y los malos augurios de los expertos egiptólogos. El día del gran hallazgo, se sentó al pie de ese faraón de vida fugaz, ese muchacho rodeado de mil maravillas, y pasó horas y horas en silencio. Y regresó muchas veces. En una de esas veces vio que lo que antes no había visto. Había unas semillas caídas en el suelo. Las semillas llevaban 3.200 años esperando la mano que las plantara.
Stable. Je me suis reposée un peu. Ouais. Du coup, on peut faire l'examen si tu veux.
Ouais. Quand tu
Dans ces moments-là, il faut pouvoir faire autre chose pour que tu puisses te reposer, récupérer, dormir, essayer d'aller marcher, faire à manger, je sais pas, essayer de trouver quelque chose qui puisse te sortir un peu de penser à ça. De lâcher tout ce que tu dois lâcher. Si t'as besoin de craquer un coup, tu peux craquer un coup aussi. Les débuts, des fois, c'est ça. Ça va repartir, ça va revenir. Tu vas être positive. Ça va avancer tranquillement. Ton bébé, il est peut-être pas si pressé. Ton bébé n'est peut-être pas si pressé. Il va te prendre le temps. Lui il va bien. Toi aussi.
Ça va ?
début de travail. Ça fait bien semblant.
Extrait du livre « Vivre sa grossesse et son accouchement » de Isabelle Brabant.
Les heures passent, on a des contractions et rien ne semble avancer. Souvent, cela prend plusieurs heures de contraction avant d'arriver au travail actif. Surtout au premier bébé, parce que les tissus n'ont jamais connu un tel étirement. La phase de latence, donc, est la période de réchauffement pendant laquelle l'utérus passe de l'activité sporadique et désordonnée des contractions de grossesse à l'action coordonnée du travail actif. Ce temps peut être décourageant si l'on s'attend à une dilatation proportionnelle à la douleur qu'on ressent. Le progrès ne se mesure pas encore en centimètres, mais le travail de maturation du col et de finalisation des derniers préparatifs est absolument essentiel dans le processus de la naissance. Cette période peut durer de quelques heures jusqu'à 24 heures et même plus. D'où l'importance de boire et de manger, se reposer entre les contractions, de conserver son énergie pour le travail à venir.
Après, je pense que je vais aller prendre une douche.
Ouais. Tu voudras que je vienne avec toi ?
Ouais.
Ouais, ça marche. Tu veux de la chocolat ?
Ouais. J'aurai celle-là.
On va à la douche.
Hein?
On va à la douche. Direct.
Ouais.
Tu veux que je prenne des trucs à la douche?
boule à mon pantalon.
Extrait du livre « L'accouchement est politique » de Béatrice Cascalès et Laetitia Négrier.
Une particularité française veut que ce soit les gynécologues obstétriciens qui assurent la majorité des suivis de grossesse. Ceci a un impact important sur la prise en charge médicale et sur les représentations véhiculées autour de l'accouchement, puisque la fonction première des médecins réside dans la prise en charge de la pathologie. Toute leur formation est basée sur ce principe, et concerne, en dehors des pathologies gynécologiques, également celles qui peuvent survenir pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Ainsi, le suivi qui sera proposé aux personnes enceintes est essentiellement orienté vers la recherche de complications éventuelles et l'évitement de celles-ci. Une grossesse est alors perçue comme toujours potentiellement dangereuse. Cette vision conduit bon nombre de gynécologues obstétriciens à considérer les personnes enceintes comme étant incompétentes et ne pouvant accoucher autrement que grâce à l'intervention d'un ou d'une gynécologue obstétricien hautement qualifiée. Bien souvent, lorsqu'une personne raconte son accouchement, et si on ne s'attarde pas à écouter son ressenti, voici ce qu'on entend. On m'a fait une épisiotomie parce que mon périnée allait se déchirer. J'ai eu une césarienne parce que le bébé ne descendait pas. J'ai été déclenchée parce que le travail n'avançait pas assez vite. Très peu savent qu'elles ont eu une épisiotomie des suites d'une position allongée ou de la péridurale, ou qu'elles ont subi une césarienne parce que leur accouchement a été dès le départ trop médicalisé. Lorsqu'elles racontent qu'elles ont vécu leur accouchement de façon douloureuse sur le plan moral, leur entourage, la famille, leur médecin, les sages-femmes du service répondent bien souvent « L'essentiel, c'est que le bébé aille bien ». Et que vous soyez en bonne santé. Elle s'empare alors pour la plupart de cet argument. Nombreuses sont celles qui remercient leur médecin et le personnel de l'hôpital pour les avoir sauvées, elles et leur bébé, et qui offrent des fleurs aux soignants pour avoir pratiqué une césarienne en urgence ou extirpé leur enfant avec des forceps parce que celui-ci était en détresse fœtale. Les personnes imputent tout ce qu'elles ont subi et la violence parfois ressentie à l'accouchement en lui-même. L'hypermédicalisation qu'elles ont subie est normale, puisque l'idée que l'accouchement est intrinsèquement dangereux semble indestructible. La boucle est bouclée. Les représentations de la grossesse et de l'accouchement faites de peur génèrent une hypermédicalisation. Ces représentations sont alors confirmées par le ressenti des personnes lors de leur accouchement hypermédicalisé. Car soyons clairs, subir une épisiotomie, une injection de syntocinone, des forceps, une césarienne n'est pas anodin. Et en avoir peur semble légitime.
On va y arriver. On est sur la bonne voie. T'es sur la bonne voie. Faut jamais être trop pressé pour un accouchement. Normalement, alors, la précipitation n'est plus de rigueur. Mais je suis très confiance en toi. T'es une warrior de plein de trucs déjà. Y a pas de raison pour l'accouchement. Ça se voit pas.
Oh.
Alors moi, j'avais complètement perdu la notion du temps, à part que j'attendais de voir le petit jour, machin. En fait, j'avais juste les notions de nuit et jour, quoi. J'avais pas du tout d'idée de quelle heure il était. Et juste, Jeanne, à un moment, m'a dit « Je peux pas te réexaminer maintenant, je te réexaminerai dans 2 heures. » Et 2 heures après, j'imagine, du coup, elle est revenue, elle a dit « Ah bah, t'en es qu'à 3 et demi, en fait, ça avance pas, quoi. » Il y a... Ça, on n'en est pas à, à un travail efficace, quoi.
Et du coup, moi, Jeanne est allée se... En fait, toi, tu... Tout le monde est parti dormir au même moment, en fait.
Ouais. Non, je suis partie lire dans la caravane chambre. En fait, je pense que j'ai lu 2 pages. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé un rythme de dormir entre les contractions et me réveiller à chaque contraction et redormir, mais replonger dans un vrai bon sommeil, quoi, entre 2 contractions à chaque fois.
Et du coup, ouais, moi, Jeanne et Cécile m'ont réveillé. Donc moi, je suis sorti, j'étais un peu... je me réveillais, quoi, la tête dans le cul, après avoir pas dormi beaucoup, et puis par terre sur la terrasse, enfin, voilà. Et j'ai vu Cécile que j'avais pas vu arriver, du coup. Donc, bonjour Cécile. Et là, elle me dit qu'elle va partir, qu'elles vont partir, toutes les deux. Parce qu'il y a une phase de latence, qu'il faut attendre que ça reparte, que là, il faut se reposer, que voilà. En même temps, Thomas est arrivé avec plein de choses à manger qu'ils avaient préparées pour nous. Donc plein de sentiments contradictoires, en fait. Et où elles sont parties là-dessus. Et où, du coup, moi, ça faisait 5 minutes à peine que j'étais réveillé. Et là, moi, je me suis mis à pleurer, en fait. J'ai eu une grosse chute de... Enfin, les nerfs qu'on lâchait, quoi, et de me dire merde,
on est
tout seul, elles sont parties, c'est la merde, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé à partir de là, c'est qu'on a dormi tout l'après-midi.
Ouais. En fait. Moi, je bon, interrompu, moi, à chaque contraction, ouais. Mais gros sommeil, quoi.
Ouais. Jusqu'à 18h30, quoi.
Et là, on s'est dit qu'on allait regarder un film.
Ouais.
Avec interruption toutes les 10 minutes.
Pause toutes les 10 minutes,
le temps de la contraction. Et voilà, et puis après le film, moi je suis allée me coucher. Petit à petit, au cours de la nuit, au début je me levais pour les contractions et j'allais sur le ballon, je crois. Et au fur et à mesure, c'est toi qui venais me lever parce que je galérais à me lever jusqu'à un moment.
Jusqu'à 4h du mat, 4h30.
Et là, à une contraction, ça fait pouf comme ça. Et j'ai perdu les os. Et c'était hyper impressionnant pour le coup. C'était beaucoup. J'étais ah, c'est cool. J'avais vraiment la sensation d'un ballon de baudruche, une bombe à eau, quoi.
On t'a enlevé ton pantalon, moi je l'ai sorti, j'ai passé un coup de serpillière par terre, machin.
Et là, les contractions deviennent plus fréquentes.
Ouais. T'as commencé à changer et à t'accrocher à moi.
Ouais. Ouais, j'avais besoin de me suspendre à toi. Ouais, moi, je ressentais que j'avais plus envie d'avoir le ballon sous le le bassin, en fait. Je trouvais que ça m'empêchait quelque chose. J'avais besoin d'avoir du vide sous le bassin. Tu vois, la force, je la mettais dans les bras. Et le reste, je le détendais, quoi. Ouais. Je sais pas, je me dis que c'est peut-être un truc comme ça.
Normalement, on était censé, d'après les consignes, on était censé attendre 2 heures de contraction rapprochée comme ça avant d'appeler. Et toi, à un moment, tu m'as dit, là, on peut appeler Cécile, je crois que il faut l'appeler, quoi. Et du coup, je l'ai appelée et je lui ai dit, je savais pas quoi lui dire. Et puis, en fait, elle a décroché, elle avait la voix un peu de quelqu'un qui se réveille en pleine nuit, quoi. Et je lui ai dit, Blandine te réclame. Elle m'a dit, j'arrive. Et puis voilà, elle est arrivée, c'était l'aube. Le jour commençait à se lever.
Sur le ballon, mais là je sens que ça pousse plus derrière aussi.
Au terme d'une première journée de latence et de faux espoirs, nous voilà à l'aube d'un deuxième jour où le vrai travail semble enfin commencer. Vous venez d'entendre la première partie d'un accouchement parmi d'autres. Un
premier accouchement, à domicile. Merci à Marion, Ariella, Marie, Adeline, Gabi et Suzanne pour nous avoir prêté leur voix. Merci à Jeanne et Cécile pour leur précieux accompagnement, leur douceur, leur force, leur patience et leur énergie. Le texte en espagnol que vous avez entendu est d'Eduardo Galeano, qui nous a accompagnés tout au long de notre voyage en Amérique latine, où a débuté cette grossesse. Il est extrait du livre éphéméride « Hijos de los días ». La musique a été spécialement créée par Marion, que nous remercions chaleureusement. Merci aussi à Céline pour l'open space, les oiseaux et le café.
Prochain épisode, piscine et délivrance.
Voilà, c'était un vrai travail sur les ondes de Canal Sud 92.2. Et donc, comme vous l'avez entendu, il y a une suite, et la suite, c'est la semaine prochaine, le lundi 20 décembre, sur ces mêmes ondes. Et puis sinon, la suite, c'est aussi à Canal Sud, au 40 rue Alfred Duméril. On va certainement faire une petite pause pour manger la soupe, mais ce sera tout de suite après. On vous laisse avec les bandes de Canal Sud. Au revoir.